Éric Emmanuel Schmitt, vous avez connu un grand moment il y a quelques années qui vous a fait passer à la foi, qui vous a fait passer à la confiance, avec cette phrase « Tout est justifié ». Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Eh bien, un jour, je suis parti pour faire un voyage dans le désert. C'était un voyage qui n'avait rien de spirituel, c'était surtout une marche de 10 jours dans le désert avec des chameaux qui portaient la nourriture. On faisait des bivouacs chaque nuit. Avec un guide touareg et un guide américain. Alors certes, il y avait quelque chose d'étrange dans ce voyage, c'est que le but pour moi était de faire le trajet qu'avait fait Charles de Foucauld. Je devais écrire un film sur Charles de Foucauld, un film qui finalement ne s'est jamais fait, mais moi j'ai reçu à cette occasion-là un grand cadeau. Alors c'est un drôle de cadeau parce que ça a pris une forme qui aurait pu être effrayante, c'est-à-dire qu'un jour, on a fait l'ascension du mont Tarat, qui est le plus haut sommet du Hoggar, cette partie donc un peu montagneuse du Sahara. Et arrivé au sommet, j'étais heureux, un peu exalté, et j'ai dit à mes camarades de voyage, je passe devant. Et je me suis mis à descendre très vite, dans un endroit qui n'a pas vraiment de sentier, sans jamais vérifier mon chemin, sans jamais me retourner pour voir si les autres me suivaient, sans prendre aucune précaution. Et je marchais. Et très vite, comme si j'avais rendez-vous. Alors rendez-vous avec quoi? Je ne sais pas. En tout cas, à 7h du soir, je me suis arrêté. Je me suis retourné, j'ai appelé, il n'y avait personne derrière moi, personne ne me répondait. Je me suis rendu compte que je ne savais plus où j'étais, que j'étais vraiment perdu. Et puis... La nuit est tombée, le vent s'est levé, le froid est arrivé. Et je me suis dit, mais voilà, je suis perdu à 300 km de Tamanrasset, le premier village, sans rien à boire, sans rien à manger, parce que j'avais laissé mon sac au bivouac. Et je me suis dit, ça va être horrible, je vais passer une nuit horrible parce que je vais avoir peur. Alors je me suis protégé du vent derrière un rocher, je me suis ensablé pour avoir un peu plus chaud. Et puis je me suis... disposé à attendre. Et au lieu d'éprouver de la peur, j'ai éprouvé le contraire absolu. C'est-à-dire que pendant cette nuit, j'ai été inondé par la confiance. Et pendant cette nuit, ma vie a basculé. C'est-à-dire que moi qui étais tout à fait incroyant, un athée modéré dans son expression, mais convaincu, voilà que j'ai passé une nuit mystique, ce que Pascal appelait si joliment une nuit de feu. Et pendant cette nuit-là, j'ai eu vraiment le sentiment d'être en face d'une transcendance. Alors, tous les mots pour le dire sont insuffisants. Tous les mots sont approximatifs. Tous les mots sont des analogies. Tous les mots sont que des images. Parce que ces expériences-là, elles appartiennent si peu au réel, où elles nous font passer sur un autre plan de réalité, ce qui fait que les mots du réel ne suffisent pas à dire ça. Mais pendant cette nuit-là, je dirais, j'ai entendu de façon plus affective, et je dirais sentimentale qu'intellectuelle, j'ai entendu un certain nombre de messages, que je ne devais pas avoir peur, que je ne devais jamais m'inquiéter, que si je ne comprenais pas, ce n'était pas parce que le monde était incompréhensible ou dépourvu de sens, c'était simplement parce que mon esprit humain à moi était limité. Le monde est infini, mais mon esprit est fini. Donc mon incompréhension, je ne dois pas la projeter dans le monde, je dois l'accepter comme la mienne. Et puis est arrivé ce message peut-être le plus important, tout a un sens et tout est justifié ou tout sera justifié. Ça, c'est une phrase encore qui me fait trembler parce que... Quand je vois parfois les horreurs qui se passent dans le monde ou l'injustice ou ce que j'appelle l'injustice, enfin bref, quand on pèse la dimension du mal, on a du mal à la difficulté à penser que effectivement tout est justifié. Mais je ne peux pas dire autrement que cela. Cette nuit-là, j'ai entendu ça et c'était une nuit merveilleuse. C'était comme un instant suspendu, un long instant où j'étais porté par une force tellement puissante que je ne pouvais pas en être l'origine. Et le matin est arrivé et je me suis rendu compte que le soleil était pas du côté que j'attendais du tout. Donc j'ai compris que j'étais du mauvais côté de la montagne, que j'étais descendu le mauvais versant. Alors j'ai passé ma journée à remonter cette montagne. Alors j'avais toujours pas bu, j'avais toujours faim. et puis a commencé à redescendre. Et pendant ma descente de l'autre côté de la montagne, fort heureusement, le guide Touareg m'a aperçu. Parce que vraiment, les yeux des hommes du désert voient des choses que nous, les passants, nous ne voyons pas. Et il est monté me chercher. Et quand il a ouvert les bras pour me prendre contre lui, j'ai vraiment réalisé que eux, mes amis ou le guide, avaient passé une toute autre nuit, puisqu'ils avaient passé la nuit éveillés à faire des feux un peu partout, à appeler dans la montagne « Eric, Eric !» Et ils pensaient que j'étais fracassé au fond d'une crevasse. En fait, j'étais de l'autre côté de la montagne, tout simplement. Et en même temps, avoir leur émotion, moi j'en avais une encore plus grande, mais je n'ai pas pu raconter. Alors on m'a fait dormir pendant une nuit et une journée, et puis après j'ai fini le voyage sur un chameau, alors qu'on marchait normalement. J'étais le roi du monde. Et je suis arrivé à la Sécrem en chameau. Et cette fois, c'était une grande surprise pour moi, parce que je n'étais pas du tout la bonne personne pour ça. Je ne peux pas dire que je n'en avais pas soif de la foi, mais... c'était résolu. Enfin, j'étais un agnostique, c'est-à-dire, quand on me demandait « Dieu existe », je répondais très honnêtement « Je ne sais pas ». Et voilà qu'une expérience changeait tout. Alors, j'étais un peu furieux à certains moments contre cette expérience. Ouais, c'est terrible d'être aussi gâté et de le prendre aussi mal, mais je dois dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, je me disais « Mais c'est terrible parce que cette expérience, je ne peux pas la partager. Je peux juste en témoigner ». Alors que quand on est dans le champ de la philosophie, qui était mon champ de travail, puisque j'enseignais la philosophie à l'université, le propre de la philosophie, c'est qu'elle donne des arguments qui sont universels ou universalisables, et que, donc tout ce qu'on peut dire en philosophie, on peut le partager. L'expérience, on ne peut pas la partager, on peut juste l'énoncer maladroitement, en témoigner, avec des mots toujours inadéquats. Et j'étais grandi à ça, c'est-à-dire quelqu'un qui allait tenir un discours que avant je ne supportais pas, car chaque fois que quelqu'un me parlait de sa foi ou de son expérience mystique, je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Pourquoi lui et pas moi? Et puis j'ai du mal à le croire. Alors au début, quand cette expérience est arrivée, je l'ai tue, je l'ai gardée secrète. Parce que d'abord, je n'avais pas les mots pour le dire, puis je n'avais même pas l'audace de le dire. Parce que dans mon milieu d'intellectuel, on ne disait pas ça. Et puis, cette foi a tellement grandi, ou m'a tellement grandi, je ne sais pas. Enfin, cette foi qui était un goutte à goutte dans le désert est devenue une rivière, un fleuve, puis surtout, c'est devenu moi. Voilà, un jour, un journaliste masticotait, c'était à la télévision, et elle masticote pour savoir, mais enfin... D'où vient la lumière qu'il y a dans vos livres? D'où vient cet optimisme? D'où vient cette confiance? D'où vient cet amour de l'humanité que vous exprimez? Il y a forcément un secret. Ben, je lui dis, voilà le secret, c'est que j'ai la foi. Alors depuis, ben, quand on me pose la question, je réponds simplement parce que c'est aussi une manière de dire à ceux qui ne croient pas, je n'en sais pas plus que vous, vous n'en savez pas plus que moi, mais attendez-vous à des surprises. Parce que la vie est toujours plus riche que ce qu'on imagine qu'elle est.
Vous avez parlé d'un goutte à goutte. Et c'est vraiment, quand on vous lit, Eric Emmanuel Schmitt, on a vraiment l'impression d'une source silencieuse qui traverse vos livres. Très fraîche, très claire, très lumineuse, mais ça parcourt vos pages, ça parcourt vos mots. Et puis, on est là, on boit ou on ne boit pas.
Je ne veux pas être un écrivain contagieux, c'est-à-dire que je ne veux pas pousser les autres à penser comme moi ou à croire comme moi ou à espérer comme moi. L'endroit d'où je parle et d'où j'écris, c'est bien cet endroit-là, c'est-à-dire c'est une âme qui a été illuminée par la confiance. Donc ceux qui le voient peuvent s'y réchauffer ou s'y abreuver. Et puis ceux qui ne sont loin d'éprouver ces choses-là voient simplement un humaniste qui aime les hommes, ou plutôt qui aime ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Une fois, un de mes amis me disait « Mais ce que tu appelles Dieu, est-ce que ce n'est pas simplement le meilleur de l'homme ?» Alors je lui dis « Si c'est le meilleur de l'homme, faisons-le exister et croyons-y. » Humanisme, ou pour moi christianisme, de toute façon pour moi les racines de l'humanisme sont dans le christianisme, il y a des vibrations communes.
Et vous dites aussi, Eric Emmanuel Schmitt, que vous sauvez chacun de vos personnages.
Oui, j'essaye. Parce que je ne crois pas, je n'ai pas une vision du monde manichéenne, je ne crois pas qu'il y ait des bons et qu'il y ait des méchants. Je crois qu'on peut s'efforcer d'être bon toute sa vie et puis en une seconde, on commet l'acte irréparable qui fait que voilà, on a raté son programme. La sainteté est la chose qui me fascine le plus. D'ailleurs, pendant des années, quand on me demandait qu'est-ce que vous voudriez être, je répondais un saint. Parce que pour moi, c'est vraiment, voilà. Mais évidemment, je n'essaye même pas de l'être. C'est juste le fantasme absolu de l'homme qui arrive à toujours privilégier le bien sur le mal. Voilà, le bien est très long à faire, très difficile à faire, et le mal se fait en une seconde, il n'y a rien de plus aisé. Nous sommes tous libres pour le bien comme pour le mal. Et donc, voilà, je ne crois pas qu'il y ait des bons, je ne crois pas qu'il y ait des méchants, je crois qu'il y a des meilleurs et des moins bons. Oui, parce que selon les valeurs qu'on a et selon le mode de vie qu'on a, on peut privilégier le bien ou se laisser aller au mal. Mais c'est présent pour moi en chaque homme. Donc effectivement, mes héros, j'essaye tous de les sauver. Enfin, je ne les enferme pas dans un de leurs actes, jamais. Et ni un acte bon, ni un acte mauvais. Ils sont une liberté qui est toujours appelée à trébucher ou à monter.